J'admire votre endurance. Je vais donc être le troisième à la mettre à l'épreuve. Sous le titre, donc, non pas tant Lacan, avec Heidegger, parce que j'avoue que j'ai pas très bien compris ce avec, que ce soit avec les philosophes ou avec Heidegger. Si ce n'est qu'il est intéressant parce qu'il traduit un embarras, et puis d'abord l'intelligence de ne pas vouloir employer la platitude du titre qui est par exemple le mien, Lacan et Heidegger, mais aussi sans doute un embarras avec les philosophes. Mais c'est pas la philosophie, mais ça y va. Avec ou contre, etc. Donc moi, je traiterai plus modestement Lacan et Heidegger, ou traiter peut-être un grand mot, j'essaierai de déployer devant vous quelques réflexions à partir des séances, du texte de Heidegger, si vous voulez, publié par Médard-Boss en 1987 chez Klostermann, et qui porte le titre « Zollikoner Seminare », les séminaires de Zollikon. À chacun son séminaire. Le difficile est de croiser les semences de façon à obtenir la vigueur d'une pensée métissée plus tôt qu'un hybride informe autant qu'un viable. Et la solution de cette difficulté consiste, d'après les termes de mon séminaire à moi, je veux dire d'après le discours qui est pour moi le discours du maître, le discours heideggerien, à, je cite, Zollikoner, page 99, « faire voir le différent dans sa différence ». Faire voir le différent en tant que tel. Consigne donc, ne pas tout mélanger, distinguer au contraire, et naturellement de façon aussi tranchante et aussi loin qu'il le faudra. Avant toutefois d'instruire, comme on dit étonnamment, car cela signifie que les questions sont d'abord bêtes, qu'il faut elles aussi les former, leur apprendre à devenir des questions, avant d'instruire la question de cette différence, de ce changement de discours qui se fait manifestement, quand on passe du discours Heidegger au discours Lacan, mais qu'est-ce donc là qui se manifeste, voilà, qui n'est certes pas manifeste. Et par conséquent, avant de nous risquer à la recherche de ce même, du point de vue duquel ou eu égard auquel, seulement ce qui est différent peut l'être, et non pas simplement indifférent. Je dis cela parce que mon séminaire continue en effet ainsi la phrase que j'ai commencé à citer à l'instant, « Was verschieden ist ?» Ist dies nur, sofern es in einer Hinsicht verschieden ist, ce qui est différent n'est-elle que dans la mesure où il est différent in einer Hinsicht, ce qui banalement veut dire d'un certain point de vue, d'un point de vue, mais ce qui naturellement, dans l'usage que fait Heidegger, je dirais toujours au corps à corps ou au corps de la lettre d'une langue, ça veut dire en hinsehen, en projetant une vue sur. Donc ce qui est différent n'est cela, n'est différent, que dans la mesure où il est différent in einer Hinsicht, d'un point de vue, in dieser Hinsicht, dans ce point de vue, ou dans cette vue jetée sur, ce que nous regardons, ce à quoi nous avons égard, erblicken wir zuvor dasselbe, c'est d'abord le même. Hinsichtlich dessen, dans l'égard auquel das verschiedene zusammengehört, ou du point de vue duquel, ce qui est différent s'entrappartient. Avant donc d'instruire cette question de la différence et du même, de ces dires lacaniens et heideggeriens, il me paraît non seulement honnête, mais indispensable et pour tout dire salubre, de décrire un peu, Et même si cette description ne prétend pas en être une de phénoménologique, mais pour ainsi dire une simple évocation, l'impression que donne d'abord et longtemps ces deux corps textuels, non pas justement d'une différence du discours analytique et du discours existentiel, mais d'une étrangeté violente, traversée cependant par une sorte d'attirance, aussitôt combattue, et de chaque côté identiquement, par la jalousie du soi, en sorte que leur rencontre, si et quand elle a lieu, mais pour rare que soit le phénomène, il est évident que de part et d'autre, on ne pense qu'à ça, ne ressemble pas du tout à une rencontre, mais plutôt à une collision, comme si deux orages s'avançaient l'un vers l'autre des deux côtés opposés du ciel. Mais c'est là une impossibilité météorologique. Et de fait, c'est seulement l'apparence, ou plutôt l'illusion, qui nous masque le véritable rapport de la pensée analytique, non plus nécessairement, et même peut-être nécessairement plus psychanalytique, de Lacan, et l'analytique existentielle, non pas nécessairement philosophique, de Heidegger. À l'origine de cette évocation, que pourrait-il y avoir d'autre qu'un souvenir ? Je veux dire quelque chose d'oublié, presque depuis son événement, et qui vient tout d'un coup par en dessous. L'événement, en l'occurrence, était la soutenance de thèse de Claude Lefort en 1972. Le hasard des choses ayant fait qu'une défection du dernier moment au sein du jury avait conduit Raymond Aron à me demander, sans doute faute de mieux, de combler le trou. Que cet automne 1972 ait été précisément celui des trois formidables morceaux qui ouvrent le séminaire encore, de la jouissance, dont le sujet est la bêtise, à Jacobson, tu es là Jacobson, où il est question non de linguistique, mais de linguisterie, c'est-à-dire de frayer un langage à rien de moins que ce qui unit la mort, le discours et toute dimension de l'être, comme l'explicitera dès le 9 janvier suivant la fonction de l'écrit, car ces trois premiers textes, à mon sens, n'en font qu'un. Tout cela, je l'ignorais alors, je n'irais même pas superbement, mais plutôt platement, je l'ignorais en tout cas tout simplement, faute d'avoir jamais pénétré dans cette salle où l'on est en somme au restaurant et où l'on s'imagine qu'on se nourrit parce qu'on n'est pas au restaurant universitaire. Pour moi, le restaurant universitaire me suffisait parfaitement et il a continué depuis à me suffire, à condition cependant de s'installer soi-même au fourneau et d'y ajouter au moins la peinture, la musique et le cinéma. Je ne savais donc pas, sinon de nom, c'est Lacan, qui avait fait Salliard, et bien entendu en retard, une entrée remarquée pendant la soutenance, ni qui, se mêlant tout naturellement au jury, une fois le rite terminé, allait à je ne sais quel tournant de la conversation me clouer le bec avec cette seule apostrophe. Vous savez pourtant bien, Granel, que je dis toujours la vérité. Voilà qui était beaucoup trop intelligent pour moi, qui, bien que soupçonnant que je dis, devait sans doute s'écrire avec un T plutôt qu'avec un S, et qu'en tout cas il fallait une majuscule à vérité, ne parvenait tout de même pas à confondre ce qui était proféré là avec le lien qui, dans le discours de l'analyse par le simple qu'est le discours cartésien, dévide en effet à partir de l'ego les catégories de la vérité en tant que certitudo. Je n'y comprenais donc rien, Et ce qui est plus surprenant, j'eus la sagesse de me taire. Si je commets aujourd'hui la bêtise de parler, il serait plus près du sentiment que j'en ai de dire, si je me confie à cette bêtise, ce n'est pas, du moins je l'espère, et surtout devant un auditoire tel, sur le mode « moi, la vérité, je parle ». Mais c'est pourtant bien pour me mettre en quête d'une certaine vérité, si justement l'enquête elle-même ne la dissipe pas, celle d'une impression, floue par conséquent, comme le mot suffit à le faire entendre, mais vive, inattendue, frappante, et dont la préoccupation ne m'a plus quitté, ce pourquoi je ne crois pas qu'elle me floue. Cette impression, la simple probité m'oblige à en faire l'hommage à celui qui en fut la cause, puisque j'en ai été saisi au fur et à mesure de l'écoute, en un lieu très loin d'ici, sur le tropique d'en bas, d'un texte limpide et proféré d'une voix calme, qui portait le titre intrépide suivant, à la mémoire de, à la ligne, la vie, la mort. Et qui non seulement le portait, mais bel et bien le supportait, sans faillir. Celui qui parlait, et que je rencontrais et découvrais là pour la première fois, tant est grande mon ignorance des choses du monde, était René Major. Et faites-nous, s'il vous plaît, le crédit de croire que je ne suis pas de ceux qui flattent, comme il n'est pas de ceux que l'on flatte. Il s'agit plutôt d'expliquer comment se trouve ici, comment se risque ici, quelqu'un qui n'a jamais lu Freud qu'en biais, Lacan par petits morceaux, et encore il y a longtemps, et qui est connu pour être un philosophe philosophant, comme on dit un breton bretonnant. Eh bien, la faute en est donc à cette impression, sans doute facilitée par le fait que le thème était l'oubli, ou plutôt ce trait constitutif de l'essence même de l'oubli, que si nous l'oublions, lui ne nous oublie pas, ce qui est une vérité commune à Lacan et à Heidegger, au moins prise dans sa formalité. Mais le contenu de l'impression que phrase après phrase gravait en moi l'audition de « à la mémoire de la vie, la mort » et qui la transformait peu à peu d'une simple audition en une véritable écoute, était justement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une parenté formelle ou de formulation, mais, et sans rien retrancher à l'évidence que de l'un des penseurs à l'autre, on change effectivement de discours, bel et bien cependant d'une sorte d'apparentement dans le même. En tout cas, me disais-je, tu ne pourras plus oublier que le discours analytique est parfois, qu'il est certainement depuis Lacan, un discours non pas interchangeable, mais de même puissance que le discours existentiel. Avec ce qu'on ne peut plus oublier, il n'y a qu'une chose à faire, il faut y travailler, ou il faut le travailler, puisque cela nous travaille de toute façon déjà, et ne nous laissera plus en paix, à moins que nous y mettions nous aussi. Je m'excuse aussi un peu de prendre aujourd'hui et ici la parole. En aucune façon, cependant, on ne s'acquitterait du travail dont je parle si l'on s'autorisait sans plus de quelques textes pour procéder à de simples rapprochements. La question n'est pas du tout de rapprocher Heidegger de Lacan ou Lacan de Heidegger, mais bien de les éloigner, au contraire, selon cette fameuse Entfernung, qui est en elle-même écrite comme elle est un jeu de mots, mais il vaudrait sans doute mieux dire déjà un jeu avec la langue, c'est-à-dire le fraiment d'un langage, la seule façon dont une pensée puisse se produire à l'existence, qui donc est un jeu de mots d'allure tout à fait lacanienne, et pour cette raison très mal toléré par les auditeurs allemands de Heidegger, à commencer par ceux précisément des Zollikoner Seminare, dont Medard Boss rappelle dans sa préface que « Sie pflegten sich in die Redewendung zu kleiden ». Ils se plaignaient habituellement de la façon de parler, de cette tournure de langage. Warum denn Martin Heidegger seine Sache sich nicht in einem allgemeinverständlichen Deutsch zu sagen, sich bemühe? Pourquoi diable est-ce que Martin Heidegger ne se donne pas la peine de dire son affaire, seine Sache ou sa chose? Parce qu'il y a peut-être une chose heideggerienne aussi. Pourquoi ne se donne-t-il pas la peine de dire sa chose dans un allemand universellement compréhensible? C'est la préface au Zollikoner Seminare, page 13. À quoi Heidegger, raconte encore Medard Boss, répondait toujours la même chose. Une réponse qui se suffit en effet à elle-même et qui montre que nous n'avons pas besoin là non plus de rapprochement avec Wittgenstein. Wir können doch immer nur sagen, wie wir denken und denken, wie wir reden. Doch, pour se traduire par qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons dire que, non pas ce que nous pensons, mais plus joliment, que comment nous pensons, que de la façon dont nous pensons, wir können doch nur immer nous. Wir können doch immer nur so sagen, wie wir denken. Nous ne pouvons dire que comme nous pensons, und denken, et nous ne pouvons penser, sotriso, wie wir reden, que comme nous causons. Comme tu causes, tu penses, ça veut dire. Réponse qui, sans aucun doute, n'a dû satisfaire personne. D'où la nécessité de la répéter. Non seulement parce qu'elle présuppose qu'on ait compris quelque chose à l'énigmatique préséance de la Rede sur la Sprache au paragraphe 34 de Sein und Zeit, c'est-à-dire en quel sens et de quel droit la linguisterie de Heidegger est autre chose et quelque chose de plus vieux que ce qu'atteint et d'abord présuppose et découpe la linguistique, mais encore parce qu'elle repose elle-même pour partie sur un jeu de mots, de surcroît inapparent, concernant le sagen. En fait, jeu de mots, je devrais dire plutôt là aussi un jeu du langage, à la fois créateur de la langue allemande et pourtant éteint en elle depuis longtemps, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de zeigen, sagen, il s'agit du dire comme montrer. Et là, nous devons très certainement marquer, pour une autre occasion, rassurez-vous, le lieu même, le topos aporétique dont il faudra bien que nous fassions pourtant ressource d'une véritable Entfernung Heidegger-Wittgenstein. Ce qui vient d'être dit pourrait justement servir fort convenablement à l'un de ces rapprochements, dont je ne voulais pas dire tout simplement qu'il faut nous abstenir. Nous en avons besoin, au contraire, puisqu'il faut bien marcher avant de s'orienter. Comment, en effet, aurait-on dressé les cartes si l'on n'avait parcouru nulle contrée dont on ne possédât déjà la carte? Mais seulement, je voulais dire seulement, qu'en tant que rapprochement, ils sont à la merci d'un jeu du proche et du lointain qui peut s'avérer brutalement déceptif ou insidieusement trompeur, aussi longtemps que nous n'avons pas été capables de reconnaître ce jeu pour lui-même. C'est pourquoi je ne me suis pas jeté tout de suite à propos et de l'oubli et de la Redewendung, de la tournure de langue, sur cette pourtant fameuse déclaration de l'étourdi, et c'est aussi pourquoi je ne puis maintenant me passer d'en faire le rapprochement, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Réserve d'autant plus méritoire, vous me permettrez de le faire remarquer, que Lacan, dans la suite du même texte, répète la formule dans un second énoncé rectifiant l'intelligence du premier, comme dit Henri Cretella, et qui comporte, lui, une référence explicite au caractère existentiel de ce qui est ici affirmé et rencontre ainsi, semble-t-il, pour la conforter, l'impression dont j'ai parlé tout à l'heure, selon laquelle les deux discours sont de même puissance. Ce second énoncé dit « Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend », cet énoncé qui paraît d'assertion pour se produire dans une forme universelle est de fait modal, existentiel comme tel. Le subjonctif dont se module son sujet en témoignant. J'arrête juste un instant le cours de ces réflexions pour rendre à Henri Cretella, dont je viens de prononcer le nom, ce qui est à Henri Cretella. Si ce nom, justement, à certains ici ne dit rien, je préciserai sobrement qu'il est celui d'un jeune philosophe, jeune, cela veut dire dans ma bouche qu'il doit avoir aujourd'hui une quarantaine d'années, qui fut longtemps à Toulouse étudiant, puis assistant dans notre département de philosophie, avant que l'injustice de je ne sais quel décret ministériel ne le renvoie avec tant d'autres dans ce qui constitue, selon les évidences administratives, le lieu naturel d'un agrégé, traduisait dans un bahut, heureusement sans parvenir à lui ôter rien de sa force ni de sa vocation à la pensée. Henri Cretella, c'est aussi celui que recouvre le pseudonyme à coup sûr risqué de Nino Negri dans la traduction chez Gallimard des cahiers 12 et 13 écrits par Gramsci dans sa prison moussolinienne. Et c'est enfin, c'est à ce titre qu'il est ici ce soir, l'auteur d'un article intitulé « Lacan-Heidegger » séparé par une barre et subintitulé « Les dires frères » à quoi je dois beaucoup quant à l'orientation des lectures sur lesquelles j'essaye d'asseoir ici même la même question. Article dont il faut encore dire qu'il fut publié, je crois, en 1989 dans une revue littéraire que tout le monde ne connaît peut-être pas et qui s'intitule « Le Croquant ». C'est dans cette étude que j'ai trouvé cité non seulement les deux passages de l'étourdi déjà recités, mais encore les deux phrases suivantes, tirées cette fois de Silicet numéro 4, pages 7 et 8, et je reviens au sens pour rappeler la peine qu'il faut à la philosophie, tirée, la dernière à en sauver l'honneur d'être à la page dont l'analyste fait l'absence, tirée, et c'est ainsi, je ne vous l'expliquerai pas, parce que d'abord je ne suis pas sûr de ce que j'y comprends, et ensuite ça demanderait 2 heures. Et puis c'est pas absolument pertinent à mon propos. Et je reviens au sens pour rappeler la peine qu'il faut à la philosophie pour apercevoir ce qui est sa ressource, à lui, celle de l'analyste, de tous les jours, que rien ne cache autant que ce qui dévoile, que la vérité, aletheia égale verborgenheit. Non pas donc, je leur relève tout de suite cet écart, Unverborgenheit. Et quoi qu'il en soit, comme on l'a magistralement rappelé tout à l'heure, de ce qui reste, je dirais ce qui reste d'avance et pour toujours, de l'errance et de la laiteté dans le dévoilement, néanmoins, la traduction heideggerienne est Unverborgenheit. Lacan sans hésitation écrit aletheia égale verborgenheit. Et il continue, il finit en disant aussi ne reniez-je pas la fraternité de se dire, puisque je ne le répète qu'à partir d'une pratique qui, se situant dans notre discours, le rend incontestable. Quand je parlais de la jalousie du soi, voilà en effet qui est bien self-asserting, n'est-ce pas? C'est le du discours analytique que de la pratique qui se situe du discours analytique qui est rendu incontestable. La fraternité du dire heideggerien. Mais j'aime assez ce genre de d'entièreté dans le propos, comme d'une façon générale dans Lacan, ce qui, je crois, le signe le plus patent de la pensée, la violence permanente de ces jets du dire qui sont faits justement pour rester inoubliables dans le dit et même dans l'écrit et même dans les écrits et même dans les colloques. Donc, les questions ici même se bousculent, par lesquelles, cependant, il nous faut continuer à refuser de nous laisser bousculer. Car, il faut aussi le redire, elles ne se laisseront pas répondre tant qu'elles n'auront pas été instruites. Et moins que jamais si nous cherchons réponse dans un simple va-et-vient entre tel passage d'un séminaire et de l'autre, aussi prompt à se dérober que nombreux à s'offrir. Pour le dire en une formule, pas plus qu'il n'y a de rapport sexuel, par exemple entre deux amants, mais seulement pour un médecin légiste, arrivé par définition trop tard pour autopsier les corps d'un délit dont il ne saura jamais rien, ni l'exquis ni l'horreur, pas plus il n'y a entre deux penseurs, par exemple Heidegger et Lacan, de rapport textuel. Rapporter tel texte, c'est-à-dire toujours tel fragment de texte, à tel autre, et selon quelle mesure du rapport lui-même, cela suppose, disait Heidegger en formulant la consigne à laquelle j'ai promis initialement d'obéir, que nous puissions faire voir le différent dans sa différence, ce qui n'est à son tour possible que d'avoir au moins jeté le regard sur le même, du point de vue duquel les différents apparaissent comme différents. Il faut donc que je cesse de tourner autour et que j'en vienne, si imprudent qu'en soit le geste, à tenter de me saisir de ce même-même. Sans oublier cet ultime bouclier, que le même en aucun cas, jamais, n'est l'identique, mais bien le jeu de différences multiples et précises. Nous tâcherons de les ranger sur trois axes, qui bien entendu se recoupent, se sont toujours déjà recoupés. Le premier est l'axe de ce que j'appellerais la définition de l'homme, et le même sur cet axe du discours Lacan et du discours Heidegger se définit de l'abandon de l'âme. Le second est l'axe du rang et du rôle du langage, le même entre les deux penseurs, étant que le premier rang, premier justement dans la définition de l'homme, c'est-à-dire dans son comportement, appartient au langage et non à l'homme, dont tous les rôles sont inscrits au compte, c'est-à-dire encore sur le rôle, où s'enroulent l'un de l'autre et l'un dans l'autre le dire et le dit. Le troisième axe est celui de la méthode, c'est-à-dire du rapport réciproque de la science et de la vérité. Le même ici paraîtra longtemps introuvable, et il ne s'agit certes pas de masquer ou de sous-estimer cette résistance. Le rapport des textes ne laisse même presque toujours paraître sur ce point, qui est en un sens toute la sphère des questions et des deux premiers axes de questionnement mentionnés à l'instant aussi bien, qu'une sorte d'opposition frontale, comme de deux chèvres sur le même pont trop étroit, où tout mouvement de différence serait bloqué. Cependant, je crois, et je m'efforcerai pour finir d'en donner quelques indices, que l'un et l'autre des deux penseurs est en vérité davantage occupé à élargir, pour ne pas dire à déconstruire, ce pont aux ânes de la philosophie, ce plat sujet d'agrégation, qu'est en effet science et philosophie, vous avez 7 heures, afin de lui rendre sa problématicité en le replongeant dans ce qu'il a de douteux, au sens où l'on parle d'un linge d'une propreté douteuse. Les deux choses, le problématique et le douteux, se disant en allemand d'un seul mot, selon qu'on insère ou non un tiret entre ces deux composants, fragwürdig. Pour ce qui est de la définition de l'homme, ça demande tout de même un verre d'eau, la définition de l'homme. Pour ce qui est de la définition de l'homme, il n'est vraiment pas besoin de dire que chez Heidegger, elle se situe en un Dasein, en un la-lettre, qui a rompu les ponts avec l'évidence de ce Lebewesen nommé Homo humanus, qu'il soit sapiens, faber ou simplement erectus. Et cette dernière dénomination est une occasion trop bonne de souligner que pour la psychanalyse non plus, il ne s'agira d'aucune érection, ni phallique, ni posturale, encore qu'il s'agisse bien, comme pour l'analytique existentielle, de ce manque à être par lequel nous tenons debout, ou, si nous défaillons à sa faille, par lequel nous nous affaissons. Rappelons seulement que tous les entretiens des Zollikoner Seminare ont pour objet d'ouvrir à un auditoire formé à la science l'intelligence d'une définition de l'homme en son essence, mais c'est ce que veut dire définition, qui se tire d'une Offenheit, d'un être ouvert, qui ne se peut dire dans aucune des catégories de la Vorhandenheit, c'est-à-dire ni comme substance, ni comme relation. Autrement dit, pour Heidegger, dans aucun langage scientifique. Nous verrons plus tard l'opposition de Lacan sur ce point précis, de la revendication fidèle, fidèle en l'occurrence à Freud, du caractère scientifique de l'analyse. Mais ceci sera notre 3e point. Cette définition heideggerienne de l'homme en son essence, par une ouverture qui fait la forme de son existence, qu'il n'a certes lui-même nullement ouverte, mais plutôt à laquelle il est exposé, et ce n'est certes pas par métaphore que parle ici le langage du danger, ou par laquelle il est lui-même ouvert, faut-il dire refendu, en même temps qu'il en est recouvert, comme par le nuage d'un oubli divin, tel qu'on le trouve autour des héros d'Homère, soit pour leur égarement, soit pour leur salut. Cette définition, donc, se gagne toujours d'un congé signifié à l'âme. Si, du moins, on accepte des acceptions de ce terme, le psyché pos panta, l'âme est de quelque façon toute chose, aristotélicien, et qu'on s'en tient à ce qu'il dit pour nous, ce terme d'âme, où se mêle par un forçage des concepts qui datent au moins d'Augustin et n'a plus jamais cessé d'être retravaillé jusqu'à Husserl, inclus quelque chose de chrétien et la réduction moderne de tout mode de présence à un énoncé de la représentation. Dasein signifie ici, on le sait assez et j'irai donc vite, une rupture décidée avec ce qui porte le nom de conscience et nous jette par conséquent, ou plutôt reconnaît que nous sommes toujours déjà jetés à l'insu, faut-il dire à l'inconscient. La question apparaîtra peut-être mieux justifiée si nous restituons à la conscience son nom allemand, Bewusstsein, et que nous réfléchissons à ce qu'il ne dit pas, que pourtant il dit. J'ai nommé cette rupture l'abandon de l'âme, ce que confirme encore l'un des séminaires de Zollikon, qui développe dans une longue critique du pseudo-concept de psychosomatique l'avertissement contenu dans la courte séance initiale, une séance ratée, c'est-à-dire qui n'a pas trouvé d'écoute, tenue le 8 septembre 1959 dans le grand amphithéâtre de clinique psychiatrique de l'Université de Zurich. Cet avertissement dit Alle, die in der Psychologie und Psychopathologie bisher üblichen, vergegenständlichenden Kapselvorstellungen, toutes les représentations capsules objectivantes, habituelles jusqu'ici dans la psychologie et la psychopathologie, eine Psyché, celle d'une Psyché, eines Subjektes, d'un sujet, einer Person, eines Ich, d'un Je, eines Bewusstseins, d'une Conscience, haben in daseinsanalytischer Sicht zugunsten eines ganz anderen Verständnisses zu verschwinden, doivent dans la vue ou la perspective de l'analytique du Dasein disparaître au profit d'une façon toute différente d'entendre les choses. Ni humanisme donc, ni psyché, alors même que Heidegger ne cesse de définir le domaine qui est par métier, comme il dit, celui de ses auditeurs médecins, l'homme existant. Der existierende Mensch, leur rappelle-t-il à plusieurs reprises dans les séminaires de Zollikon, votre domaine, c'est l'homme existant. Ce qui ne veut naturellement pas dire l'homme réel. Celui-là serait dit wirklich, par opposition par exemple à quelque idée préconçue de l'homme, mais bien l'homme en proie à l'existence, toujours hors de soi, y compris dans les moments de grand calme, est incapable d'une seule chose, de simplement subsister. Puisque même dans les formes de comportement où il se ferme à l'ouverture, il y obéit encore en tombant dans toutes sortes d'insistances. La névrose, par exemple, qui pourrait inclure assez bien des attitudes que l'on n'a pourtant pas l'habitude de nosographier, tel le moralisme ou la militance. Mais à coup sûr et avant tout, cette étrange manie de se vouloir et de se déclarer disciple de la vérité, cela fait du monde. Et chez Lacan, que trouvons-nous sur ce premier axe dit de la définition de l'homme? Au moins, et n'aurais-je le temps ou la force que de lire ce texte-là, il faut le lire ici même. Au moins les deux premières pages de la trace ronéotypée et recueillie par les éditions des grandes têtes molles de notre époque. Quel beau titre d'Alinien pour une édition. Et qui est tout ce qui nous reste de la conférence prononcée au Collège philosophique en 1953 et dont heureusement parce que les fautes matérielles, comme on dit, abondent, une note à la page 72 des écrits nous avertit que, bien que non corrigée par l'auteur, cette trace, cependant, fera foi pour une reprise ultérieure. Cela dit, je vais parler d'un sujet qu'il faut bien qualifier de nouveau, et qui, comme tel, est difficile. Peut-être la moitié de la salle sait-il ça par cœur, mais comme on a eu raison de vous le dire, je suis moi un néophyte. Encore un peu plus enthousiaste qu'effrayé de la lecture effective de Lacan, à laquelle il a quand même bien fallu que je consente. Donc, je vais parler d'un sujet qu'il faut bien qualifier de nouveau et qui, comme tel, est difficile. La difficulté de cet exposé ne lui est pas tellement intrinsèque. Elle tient au fait qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, qui m'a permis d'apercevoir, une faute matérielle, d'apercevoir à la fois mon expérience analytique et une tentative au cours d'un enseignement dit de séminaire de renouveler ou seulement d'approfondir l'enseignement théorique de ce qui peut se poser comme étant la réalité fondamentale de l'analyse. Donc, pas n'importe quoi ici qui est en cause. Extraire cette partie nouvelle et originale pour vous en faire sentir la portée hors de cet enseignement et hors de cette expérience, pour une bonne part d'entre nous, est donc quelque chose qui comporte des difficultés tout à fait spéciales dans l'exposé. Pour cela, je vous demande l'indulgence, je saute, et voici la définition. La psychanalyse, je dois le dire et le rappeler en préambule, est une discipline qui, dans l'ensemble des sciences, se montre à nous avec une position vraiment particulière. Souvent, on dit que la psychanalyse n'est pas une science à proprement parler, ce qui semblerait indiquer par contraste que nous puissions dire tout simplement qu'elle est un art. Certainement, on ne peut pas dire quelque chose de semblable si on entend simplement par art technique, ensemble de formules ou de recettes, méthodes opérationnelles, praxis, quoi que ce soit qui soit de cet ordre, c'est toujours derrière, bien sûr, certaines batailles contre certains courants et certaines écoles, mais ça vous l'entendez tout de suite et c'est pas ce que je poursuis. Simplement, je crois que le terme d'art doit être employé là, au sens où on l'employait au Moyen-Âge, quand on parlait des arts libéraux. Vous connaissez cette série sur les Septem Artes Liberales. Vous connaissez cette série qui va de l'astronomie en passant par l'arithmétique et la musique, à la dialectique, à la grammaire, à la géométrie. Étonnante référence de la psychanalyse à rien d'aussi récent que Pythagore. Parce que c'est finalement dans Pythagore, c'est la grande leçon du beau livre de Johannes Lohmann qui s'appelle Musike und Logos. C'est finalement dans Pythagore que pour la première fois, le mot « logos », dont le premier sens est musicologique et musical, est également l'origine de la mathématique et l'origine de quelque chose comme une science du langage ou comme une philosophie, ce qui deviendra la sophistique et la philosophie. Quelque chose d'abord comme la grammaire, c'est pas. Grammaire, musique et mathématiques, c'est le giron pythagoricien. Et c'est l'origine de ce qui se déploiera et se spécifiera dans les Septem Artes Liberales. Et ça n'est rien moins qu'à une telle succession que Lacan ici convie la psychanalyse, au moins la psychanalyse, dans la vérité nouvelle de quelque chose comme son noyau ou son véritable sens. Nous sommes donc là, d'une certaine façon, ailleurs, en avant, dans quelque chose de plus obscur, mais de plus fondateur, sans doute, peut-être de plus riche d'avenir aussi, que la simple problématique qu'on ne peut pas éviter, science et philosophie. Qu'est-ce que ça peut être qu'un pythagorisme ? Il y a effectivement... je ne vois pas la musique dans Lacan, sauf à ceci, que peut-être qu'on dise, s'il reste caché derrière ce qui est dit, rebondit, si l'on prête l'écoute à ce qu'on entend. Cette phrase est étonnamment construite. Qu'on dise, reste oublié dans ce qui est dit, s'il y a avec ça, ce serait presque une banalité. Mais il y a cet extraordinaire redoublement qui a l'air d'une maladresse chez l'homme le plus adroit, n'est-ce pas, à dire que j'ai lu depuis longtemps. Qu'on dise reste oublié dans ce qui est dit, dans ce qu'on entend. Peut-être parce que justement, l'intentionnalité propre de l'entendre et justement d'être aussitôt absorbé par l'univers du sens, par l'objectivité de ce qui est dit, et que par conséquent, l'oreille s'oublie dans l'écoute du sens, fascinée par le sens. Tandis que le musical de la langue n'échappe jamais à Lacan. Comme d'ailleurs, d'une certaine façon, il n'échappe jamais à Heidegger, mais je ne crois pas que ces façons se recouvrent tout simplement. Il s'en faut. Et je ne crois pas non plus que leur rapport à la linguistique soit le même. Il s'en faut. Ce serait d'en dire quelque chose dans un moment. Mais le même passe ici tout de même, il me semble, par exemple par entendre pour se débarrasser, et légitimement dirais-je, de la question TST, c'est-à-dire en français, qu'est-ce que c'est, de l'écrire qu'est-ce que c'est, K-E-S-K-C-E, pour en finir avec le discours courant, tout simplement en faire la phénoménologie, en nous dévoilant que c'est un disque ou courant. Ces façons de rebondir, on va s'arrêter très vite alors, ces façons de rebondir me paraissent faire partie de ce que j'appelle le même. Bon, maintenant j'ai aussi dit, mais je vois qu'on me presse, alors c'est dramatique parce que j'ai à peine abordé le premier des trois points que je voulais dire, mais ça n'est pas dramatique du tout. Que ce même n'existe, n'est poursuivi par nous que en tant qu'en un sens, il est ce qui permet le jeu des différences. Je les citerai simplement, donc, à toute vitesse, celle qui, à mon avis, mériterait question, réponse et approfondissement. D'abord, la question « Aletheia égale Verborgenheit » avec la question « Et alors, Unverborgenheit ?» Bien entendu, il y a chez Lacan aussi grande oscillation et vacillation entre la vérité au sens où elle nous travaille, où elle est par contre, et où ce travail de la vérité est l'objet même de l'analyste. Et puis l'unverborgen, et puis le barrage, la vérité qui bat. Ensuite, il me semble qu'il n'y a pas de ressources phénoménologiques chez Lacan, mais que Lacan est quelqu'un qui écrit. Écrit, c'est pas par hasard le titre de ses écrits. Mais je crois, à l'inverse, que la limite de la phénoménologie, au moins husserlienne, sinon heideggerienne, est justement de n'avoir pas compris que de décrire n'est rien que dans le geste d'écrire. Et donc ici, l'avantage pour parler tennis serait du côté de Lacan. Troisièmement, l'avantage est aussi, d'une certaine façon, du côté de Lacan en ce qui concerne la rede, c'est-à-dire le langage. Au moins de deux façons, parce que dans le discours analytique, il est évident que le sujet s'instaure du rapport à l'autre. Tandis que quoi que Heidegger ait dit du Mitdasein, qui est évidemment co-originaire au Dasein, on ne voit pas comment cela traverse la rede, n'est-ce pas ? Si bien qu'il n'y a aucune espèce de correspondance de tout ce qui est dit, qui est fondamental de la situation du discours analytique chez Lacan, il n'y a aucune correspondance chez Heidegger, et c'est en un sens un manque, sauf peut-être la pratique effective de l'enseignement. Ce sont toujours des séminaires, on parle et on répond, mais il n'y a aucune espèce de thématisation comparable à celle de la situation analytique, et deuxièmement, il n'y a pas non plus de rapport déployé à la linguistique avec un espèce d'instinct théorique extraordinaire qu'il caractérise autant que la violence et que le style. Lacan commence, lui, cependant, à déployer, à travers Jacobson et Saussure, même s'il ne va pas jusqu'au bout. En revanche, il y a chez Heidegger le principe premier, qui est la critique de l'énoncé et de son ontologie. Voilà, et maintenant, comme décidément, je ne peux retenir plus longtemps la parole. Je m'arrête.